Bonjour, c'est Christophe Prévost pour RPL, la radio du Pays Lorrain. Depuis le 14 novembre, le Temple Neuf, ce monument emblématique de la ville de Metz, vit au rythme du spectacle immersif Céleste. Un spectacle sensoriel qui conjugue lumière, vidéomapping, laser et son spatialisé. Un spectacle en 5 actes de plus de 40 minutes de projection à 360 degrés. Pour nous en parler, Mathieu Gauthier, l'une des trois personnes à l'origine du projet, dont notamment Jérémy Bello, qui est à l'œuvre en tant que commissaire artistique du festival Constellation depuis plusieurs années. Mathieu Gauthier va nous parler bien évidemment du spectacle, de la façon dont il est né, et répondra même à nos questions non consensuelles sur ce spectacle que certains appellent déjà le mini-constellation hivernale.
Bonjour, moi je suis Mathieu Gauthier, je suis cofondateur et coproducteur du spectacle Céleste et j'ai un parcours un peu atypique, un peu parisien, un peu messin, mais je suis passé par des très grandes maisons comme JC Deco, TF1, Filmalac Entertainment ou Goom Radio et j'ai toujours été à l'inverse producteur de spectacles, événements puisque j'ai produit à Metz notamment un festival contre le cancer qui s'appelait Night for Life pendant 5 ans de manière bénévole et j'ai cofondé également le projet Monumental Tour qui est l'électro à la rencontre du patrimoine avec Michael Calintro depuis 6 ans où on traverse les plus grands monuments européens et mondiaux avec des soirées électro, du mapping, de la lumière qu'on a fait notamment à Nancy, à Place Stanislas il y a 2 ans.
Avec l'agence Super Idée.
Avec l'agence Super Idée qu'on connaît bien et qui nous accompagne puisqu'ils sont effectivement à l'origine de l'affiche de Céleste et dont on est assez proche sur plein d'autres projets.
Céleste, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, et notamment pour les éditeurs qui n'en auraient pas du tout entendu parler encore? Qu'est-ce que c'est?
Alors Céleste, c'est un projet de spectacle immersif, donc c'est-à-dire un spectacle à 360 degrés à l'intérieur d'un monument historique qui est le Temple Neuf à Metz, le monument le plus instagrammé de Metz. C'est un spectacle de 40 minutes, parce que habituellement les mappings extérieurs sont plutôt de 5, 6, 8 minutes. Là, on est vraiment sur une expérience longue où on prend son temps. C'est une expérience de 43 minutes qui mêle vidéomapping, son spatialisé, lumière, laser et une sculpture assez exceptionnelle qui a été créée pour l'occasion en plein milieu du cœur du Temple Neuf.
Pourquoi le Temple Neuf justement?
Alors le Temple Neuf, pour j'aime à dire que je pense que c'est la carte postale de Metz. Quand on tape Metz sur Google ou sur d'autres moteurs de recherche, c'est la première photo sur laquelle on tombe. C'est vraiment le monument le plus photographié de Metz. Donc c'était déjà prendre de l'avance que de travailler sur un monument hyper connu des Messins. Le deuxième, c'est que tout le monde le connaît de l'extérieur, mais très peu de gens le connaissent de l'intérieur. Si vous faites le test autour de vous, je pense que 90% des gens qu'on interroge n'ont jamais mis les pieds à l'intérieur du temple. Il est toujours en exploitation, mais il n'est pas ouvert au public toute la journée par manque de moyens. Donc c'est aussi une belle opportunité de découvrir l'intérieur de ce monument. Et le troisième, c'est qu'on est en plein milieu des marchés de Noël. On est à 20 mètres en face du marché de Noël gourmand de la Place de la Comédie. Donc pour nous, c'était extrêmement important d'être en plein cœur du parcours des marchés de Noël de Metz pour faire découvrir ce spectacle au plus grand nombre.
C'est quoi la genèse du projet? On part du Temple Neuf, déjà on a l'idée de faire quelque chose au Temple Neuf et on essaie de construire quelque chose à l'intérieur. Ou il y avait déjà une idée préalable et tiens, si on pouvait adapter cette idée-là au Temple Neuf?
Alors nous, on est de par nos parcours respectifs avec nos associés, on a cette fibre de l'entertainment dans le patrimoine au sens large. Et on est surtout deux locaux entre Jérémy Bello et moi-même, puisque Jérémy Bello est mon associé, c'est le directeur artistique et aussi le coproducteur du projet, mais il est aussi commissaire d'exposition de Constellation. Donc il connaît bien Metz, il connaît bien son positionnement d'art numérique et autres. Et en fait, l'origine de la réflexion, c'était de se dire comment, sur un événement qui fait deux fois l'audience de Constellation en hiver, on peut proposer aux touristes et à ces 3,5 millions de visiteurs une programmation culturelle qui va au-delà de ce qui est proposé de manière gratuite, comme le Sentier des Lanternes, qui est génial, comme la déambulation dans le marché de Noël, etc. Comment on va pouvoir offrir aux visiteurs, aux touristes, l'occasion de rajouter dans leur programme du week-end ou de la soirée, l'occasion de pouvoir découvrir un spectacle culturel et l'intérieur d'un monument. Et c'est comme ça qu'est née la genèse du projet.
Comment il s'est construit? D'où est venue l'inspiration pour ce spectacle, avec ce nom, Céleste, enfin, qui évoque plein de choses?
Alors, il s'est construit... Alors, moi, je suis plutôt la brique... producteur administratif, partenariat, relationnel, etc. Donc quand on construit ce genre de projet, on a l'idée ensemble avec Jérémy et d'abord on s'associe. On trouve des gens de talent pour compléter un petit peu tout le spectre des talents qu'il faut. Et du coup, je me suis associé à Jérémy Bello, qui est directeur artistique, qui a cette fibre. Il a un studio de création de vidéomapping. Donc c'est son métier de le faire. Donc ça, c'était important. Et on s'est associé également à Roberto Surleo, grand producteur de spectacles, qui avait notamment produit des grands spectacles à succès comme Bernadette Delourde, comme Robin Desbois avec Matt Pokora, comme Les Trois Mousquetaires, etc., pour avoir cette vision un peu long terme. Donc ça, c'est l'origine. Et après, surtout, on essaie d'imaginer un business model qui tient la route, déjà. En se disant, quel est le coût incompressible de développement d'un tel projet? Quelle est la manière dont il faut l'installer? Quelle est la jauge potentielle? Quelle est la durée d'exploitation? Donc on a couché un certain nombre d'éléments. Et après, on s'est attaqué effectivement à son identité. Et là, on a voulu quelque chose de totalement universel. Céleste, ce n'est pas un spectacle religieux. C'est un spectacle qui s'adresse au plus grand nombre, peu importe son origine, sa religion ou autre. Donc pour nous, c'était assez important d'avoir un nom assez universel. Céleste, c'est vraiment le lien entre la terre et le ciel de manière hyper large. Parce qu'on lève la tête, c'est un peu le principe de ces spectacles aussi. On vient lever la tête vers les voûtes et regarder ce spectacle, cette projection qui est là-dessus. Donc c'est comme ça qu'est né le nom Céleste. Et après, sur l'histoire, le déroulé à l'intérieur du temple, là, on est sur un spectacle en 5 actes qu'on a voulu, pareil, de manière très universelle, pouvoir s'adresser au plus grand nombre, à ceux qui parlent français, mais aussi à ceux qui parlent allemand, parce qu'on a beaucoup de touristes allemands, néerlandais, belges, etc. sur le marché de Noël. Et on a voulu faire un spectacle sans narration audio et qui permet au plus grand nombre, du coup, de faire sa propre interprétation de ce qu'on est en train de raconter. Il y a 5 actes qui sont titrés, mais l'idée, c'est vraiment de laisser libre cours à l'imagination de chacun pour interpréter l'intégralité du spectacle.
Je reviens à Céleste, c'est un joli raccourci, voûte, la voûte du Temple Neuf et la voûte céleste.
Exactement, c'est un peu le jeu de mots, mais c'est un peu, on est en train d'essayer de raconter à travers Céleste et ses 5 actes. Le but, l'histoire du spectacle, c'est de raconter un petit peu le positionnement du Temple, qui a une histoire particulière depuis les années 1900, mais son histoire, sa construction, son positionnement entre deux bras de la Moselle sur une île. Donc on a mis en parallèle tous ces éléments qu'on a traduits visuellement à travers des univers en mapping, en laser, en sculpture, pour emmener le spectateur à travers une aventure féerique en 5 actes.
Il y a une dimension à la fois astronomique, mais quand même, les gens peuvent y trouver aussi une dimension spirituelle.
Chacun fera sa propre interprétation, très honnêtement. Il n'y a pas de clin d'œil religieux vraiment dans le spectacle. On a mis en avant les vitraux, l'univers marin. Vous allez avoir à un moment l'univers des étoiles, l'univers du feu, parce qu'il y a des périodes plus sombres dans l'histoire du temple, etc. Donc on a vraiment, vraiment fait attention à ce sujet-là, parce que pour nous, c'était très, très important. Quand il y a 3,5 millions de visiteurs à adresser, l'important, c'était justement d'avoir cette approche universelle.
Je reviens à cette dimension spirituelle, on peut la trouver quand même, justement, on parlait des vitraux, c'est le troisième tableau où il y a des choses qui peuvent rappeler ou évoquer la chrétienté, quelque part, hein, on peut le percevoir comme ça, qui est un petit peu paradoxal puisque c'est dans un temple qui est connu pour sa sobriété.
Tout à fait, en fait, il y a des clins d'œil architecturaux et dans les vitraux qui sont indéniables, on ne va pas les cacher non plus, on est dans un temple protestant, ce serait une hérésie que de couvrir les vitraux et de couvrir un petit peu tous les signes apparents qui sont dans le temple, donc évidemment que notre rôle, ce n'était pas de mettre en avant, ou en tout cas de prendre cette voie, mais notre rôle, c'était aussi de ne pas cacher l'environnement dans lequel on était. Nous, on est là pour sublimer l'existant, offrir finalement aux spectateurs la plus belle robe à ce temple neuf, parce que l'idée, c'est ça, c'est qu'il est assez sobre, quand on le voit sans son habillage en lumière et autres, l'idée, c'est de le faire découvrir avec son plus bel apparat. Et c'est un peu ça l'ADN du spectacle, c'est de se dire, je viens dans un lieu, comme tous les lieux de culte qui sont sublimés par les spectacles immersifs et autres, je viens découvrir la plus belle version de la version architecturale. Je fais toujours le clin d'œil, nous on a eu la chance de faire la réouverture de Notre-Dame de Paris en 2024. On a eu la chance de découvrir une cathédrale à l'intérieur immaculée parce qu'elle était neuve, donc toute neuve. Donc c'est vraiment une expérience exceptionnelle. Tous les monuments n'auront pas cette chance d'être immaculés et d'avoir la plus belle version d'eux-mêmes. Là, l'idée, c'est avec ces spectacles immersifs, c'est qu'on justement on puisse avoir quelque chose de un peu dans cet esprit-là, de se dire je l'aurais jamais vu de cette manière avant et encore moins après, quoi.
Je reviendrai sur le spectacle en lui-même. On va parler plutôt technique. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Donc, il y a du vidéo mapping, il y a des lasers, il y a un son qui est quand même bien prégnant.
Céleste, c'est vraiment la composante de tout un tas de technologies qui vont faire une espèce d'harmonie, une féerie. Il y a d'abord, et je pense que c'est le sujet principal, le vidéomapping. Donc il y a 15 vidéoprojecteurs qui vont diffuser sur quasiment 360 degrés, sur les voûtes, les vitraux, les œuvres, les piliers et autres, donc pour donner aux spectateurs l'impression qu'il y a une seule et même image. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est la première composante. Et ensuite, pour la dynamique, pour nous, c'était important de rajouter des éléments parce que le vidéomapping ne fait pas tout et il faut réussir à alterner entre les technologies, entre les rendus et autres. Et donc, la deuxième composante, c'est les lasers. Les lasers parce que ça ramène cette énergie, cette vivacité qu'on a besoin dans des temps forts musicaux assez importants. Donc là, il y a une espèce de jeu de rendu entre certains lasers, entre l'avant et l'arrière. La troisième composante, c'est la partie effectivement sonore. D'abord, c'est une œuvre créée pour l'occasion de presque 43 minutes par l'artiste Ena Eno. Donc, c'est une composition originale. Nous, pour nous, c'était très important que le produit, l'œuvre musicale soit totalement inédite et qui colle parfaitement au sujet. Et cette œuvre, elle a été enregistrée en 34 canaux. C'est-à-dire que chaque instrument, chaque sonorité que vous entendez, chaque voix, elle est enregistrée à part. Et on a un système de son spatialisé de quasiment plus d'une trentaine d'enceintes qui ont été placées dans l'intégralité du temple. Ils y ont passé 8 jours à spatialiser le son, c'est-à-dire que la cymbale que vous allez entendre ou la voix de la soliste ou autre là-dessus, eh ben, on a choisi exactement à quel moment, à quelle seconde, où est-ce que vous allez pouvoir l'entendre, si c'est plutôt en avant-gauche, en arrière-droit et autres. Donc ils ont passé 8 jours de temps, toute la journée du matin au soir, à éclater finalement l'œuvre sonore et la réattribuer à une spatialisation sonore.
Eux-mêmes ont vécu une immersion.
La résidence de 3 semaines artistique, elle a été exceptionnelle. Pour tout le monde, ça a été vraiment une expérience dingue.
Et Ena Eno, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quoi? C'est un artiste?
Alors c'est un artiste de son prénom Arnaud, qui est passé par le conservatoire de Metz. Donc nous, c'était important aussi de jouer l'aspect local, parce que c'est extrêmement important. Il a un parcours assez exceptionnel et il a cette faculté de jouer aussi avec la spatialisation sonore, l'enregistrement avec quelques sonorités électro. Il y a une reprise notamment du Carnaval des animaux qui est assez exceptionnelle dedans, qui a été complètement revisitée et qui colle parfaitement à certains moments du spectacle. Donc oui, il a cette intelligence, il a ce talent effectivement de pouvoir créer 43 minutes de spectacle original qui oscille entre méditation parfois, c'est des mots qui ressortent du public sur le rendu, et dynamisme et fraîcheur à certains autres moments. Quoi.
Il avait un cahier des charges, vous lui avez donné vraiment il faut tant de temps, et c'est Jérémy Bello après qui a collé les images à la musique ou... Comment le mariage s'est constitué?
Alors dans ce genre d'aventure, alors oui, le producteur, je donne généralement le tempo parce qu'on sait combien de séances on a besoin de rentrer par soir pour rentrer dans une économie sur le long terme. Donc je dirais que la durée, c'est plutôt moi qui la fixe avec Jérémy. Ensuite, je pense qu'il y a un découpage des actes, ça c'est Jérémy qui les a écrits. Donc déjà, ça donne un peu une ordre d'idée du découpage et du nombre de titres qu'il faut, avec le nom, l'intitulé, l'esprit. Et après, il y a des visuels qui sont... travailler des univers qui sont travaillés, qui sont rythmés après par la musique. Donc c'est vraiment un ping-pong créatif entre les deux. Ils y ont passé presque 6 mois. Donc c'est une véritable œuvre d'art d'assembler finalement tous ces univers différents.
Je reviens sur l'aspect technique. Il y a une étoile au milieu. Elle a un rôle central. Elle est vraiment face au public.
Exactement. En fait, ça c'est l'originalité et c'est l'idée de Jérémy Bello. C'est de rajouter une espèce de pièce centrale, une œuvre centrale qui va concentrer un peu l'attention du public, même si l'idée c'est de monter le regard sur les voûtes, sur les vitraux à 360. Mais il y a quand même cet artefact qui est en plein cœur du Temple Neuf et qui va capter l'attention, qui est à l'origine des lasers, etc. Et qui est finalement la pièce maîtresse, je dirais l'œuvre d'art un peu maîtresse de l'intégralité de ce spectacle. Et sur la symbolique, Jérémy en parlera mieux que moi, mais c'est pareil, c'est un artefact assez universel. L'étoile, elle est dans toutes les religions, elle est dans tous les univers, et ça permet à tout le monde de s'identifier d'une manière ou d'une autre à ses croyances, à sa spiritualité s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Il y a toujours cette étoile qu'on regarde dans le ciel quand il fait nuit pour soit rêver, soit se guider.
Parfois, elle est très présente au point où on est capté, justement, l'œil est capté, et d'autres fois, on arrive à l'oublier. Et quand elle se rappelle à nous, elle vient nous perturber dans l'aspect méditatif par moment.
Elle vient parfois réveiller peut-être le côté méditatif, ouais, c'était un peu l'objet, puisqu'il y a tous les lasers qui sont installés tout autour de cette étoile. Et c'est vrai que c'est un équilibre qui est assez subtil sur la création. C'est-à-dire que quand on a fait les tests, quand on a testé ce qu'on a imaginé sur l'écran, au casque, on a fait énormément d'ajustements entre la V1 et ce que vous voyez aujourd'hui. Et on aimerait en faire encore tous les jours parce qu'on se dit « Ah mais il faudrait encore faire ça », mais à un moment, c'est pas possible parce que c'est très complexe. Mais c'est vrai que cette étoile, elle a ce rôle de parfois dynamiser, ou en tout cas de sortir de finalement cette balade parfois qu'on a à travers la musique qui est plus calme, qui nous emmène. On a un moment, on a un tableau avec un univers marin pour illustrer le côté île entre les deux bras de la Moselle sur l'eau. Ben, pareil, à un moment, ça vient casser ce côté très calme, très aquatique et autre. Et du coup, c'est ce qu'on cherche justement avec cette étoile, que le spectateur, parfois, ça le réveille et ça l'emmène sur un autre univers.
même si c'est peut-être Jérémy Bello qui pourrait répondre davantage, à un moment, il y a quand même l'être humain qui est convoqué dans le quatrième tableau, de manière un peu évanescente, on va dire. C'est l'esprit humain, l'esprit créatif qui est convoqué à ce moment-là.
Ça, c'est effectivement Jérémy Bello qui pourrait répondre beaucoup mieux à cette question. J'avoue que je n'ai pas décodé tous les tableaux un par un par rapport à ce qu'il voulait raconter, mais j'imagine que c'est les deux visages qui se rencontrent auxquels vous faites référence dans l'acte 4. C'est un tableau que moi je trouve très réussi visuellement, parce que cette espèce de fusion des deux êtres qui finalement viennent nous regarder en face après là-dessus font écho à ce tableau qui est un peu sombre, qui est un peu sur l'histoire un peu sombre du temple pendant les guerres. Et c'est vrai qu'il y a peut-être ce côté l'humain reprend le dessus, ou en tout cas l'être humain reprend le dessus à un moment dans l'œuvre, et c'est assez réussi. Ouais.
Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre la communion des cieux et la communion des dieux, que le dieu dans le côté vraiment ancien, polythéiste presque, où la nature intervient et a une dimension spirituelle? Est-ce qu'on pourrait faire sur ce tableau-là ce parallèle?
C'est une bonne question. Je ne me suis jamais posé cette question-là, et c'est vrai que c'est une bonne question. Je pense qu'encore une fois, je ne suis pas certain qu'il a voulu faire écrire une histoire avec un message propre. Et je pense que l'exercice très réussi de laisser à chacun sa manière d'interpréter l'histoire. Moi, j'ai du public qui est venu me voir en me racontant des interprétations qui étaient parfois totalement à l'opposé de ce qu'on imaginait nous-mêmes. Et on a été assez surpris et agréablement surpris, parce que ça veut dire que finalement, chacun fait travailler son cerveau, son imagination, et finalement, ça lui rappelle ou ça le transporte dans une direction ou une autre. J'ai pas de réponse sur le sujet, honnêtement. Faudra le poser la question à Jérémy, il pourra nous le dire. Mais si c'est l'interprétation que vous en faites, pourquoi pas? Mais en tout cas, moi, je me suis pas faite la même, en tout cas. Mais j'ai plutôt vu ça comme un très beau moment visuel de fusion de l'être humain entre deux êtres humains vers un seul et même être. Donc non, je sais pas. C'est pas exactement l'interprétation que j'avais.
Que souhaitez-vous que le public retienne en sortant du spectacle? Non pas immédiatement, on sort immédiatement, on a quantité de choses à dire, d'interprétation, sa propre interprétation ou autre, mais des semaines ou des mois après. Parce qu'on a tendance à dire qu'il y a une quantité de spectacles de mapping qui existent désormais, un petit peu partout. On ne va pas dire que c'est une mode, mais pas loin. C'est une tendance pour les collectivités. Et souvent après, quand on interroge les gens, vous vous souvenez du mapping de telle année sur la cathédrale? Ça représentait quoi? Oh, c'était beau.
Je pense que ça s'explique par la durée déjà. C'est-à-dire que les mappings gratuits que font les collectivités, qui sont exceptionnels, et je trouve que c'est génial d'en faire et d'en offrir au public sur des périodes estivales comme l'été et autres. Je sais pas moi qui va démonter cette industrie. Mais la durée de 7-8 minutes fait que forcément on s'en souvient beaucoup moins. 7-8 minutes finalement, c'est une petite histoire qu'on raconte très souvent condensée, avec de manière très énergique généralement, pour montrer le meilleur de ce qu'on peut faire là-dessus. Quand on prend le temps de faire un spectacle de 40 ou 43 minutes, déjà on a beaucoup plus d'opportunités de s'en souvenir, je pense. Moi, sur Monumental Tour, on fait des spectacles d'une heure, une heure et quart, sur des grandes façades comme Chambord ou comme sur des façades industrielles à Esch, sur les Hauts-Fourneaux, mais on vient prendre son temps déjà. Je pense que ça, c'est important dans une époque où tout se consomme en 7 minutes. Prendre son temps, et c'est vraiment un peu ce qui ressort, c'est-à-dire que quand je me suis posé pendant 40 minutes immergé dans un univers où j'ai un peu déconnecté mon cerveau, mon téléphone, et j'ai pris le temps d'apprécier, je pense que ça va aider à la mémorisation. Et ce que j'ai envie qu'ils en retiennent, ou en tout cas ce qu'il en ressort, moi en tant que producteur, déjà j'ai envie que les gens reviennent me voir en me disant, déjà j'en ai eu pour mon argent. Parce que c'est extrêmement important, et c'est toujours extrêmement délicat de trouver le bon tarif par rapport au modèle économique général, par rapport à tout ça. Donc déjà, là, moi en tant que producteur, j'ai cette première envie que les gens se disent, j'en ai eu pour mon argent, franchement j'ai eu un super spectacle, ça m'a coûté, si je suis jeune ou autre, en tarif réduit, entre 12 et 27 ou 20-30 euros si j'ai envie de m'acheter un carré VIP le samedi soir, c'est la période la plus chère, mais généralement nous on a des tarifs de billets qui sont autour de 20 euros en prix moyen. Ça c'est le premier sujet. Et le deuxième, si j'ai envie qu'ils aient vécu une chouette expérience et qu'ils se disent « ça m'a apaisé », parce que dans les temps qui courent, c'est quand même cool d'avoir ce moment d'apaisement. Et moi, j'ai adoré que tout le monde me dise « mais c'était super méditatif, on a des enfants qui étaient en position de yoga en se disant « je passe un super moment, tous les enfants sont détendus ». On a fait quand même des avant-premières avec beaucoup d'enfants, avec la famille et autres, pour tester justement si c'était adapté à cette cible. Personne n'a crié, personne n'a fini par être impatienté parce que c'était trop long, etc. ou trop fort, ou les visuels trop agressifs et autres. On a trouvé le bon équilibre, et j'ai envie que les gens aient passé un bon moment au juste prix. Voilà. Si je dois retenir des choses, moi en tant que producteur, ce serait plutôt ça. Jérémy raconterait certainement d'autres choses sur la partie artistique, mais en tout cas moi en tant que producteur, c'est plutôt ce que je retiens.
Est-ce à dire qu'il y a eu des publics tests à un moment donné? Vous avez testé avant de l'ouvrir au public?
Oui, bien sûr. Comme n'importe quel spectacle, il y a toujours dans le spectacle vivant, on a la couturière pour tous ceux qui ont travaillé sur le spectacle. Ensuite, on a généralement les avant-premières pour les amis, la famille et autres. Ça a été une semaine d'avant-première qu'on a fait avec les partenaires et autres qui nous ont permis de roder les flux, roder le spectacle. On a changé beaucoup de choses entre la première avant-première et l'ouverture au public. Donc, c'est une semaine qui est extrêmement décisive sur le rendu et on prend le pouls finalement du public qui vient découvrir ce show pour la première fois.
Vous avez parlé de tarif VIP, vous avez expliqué à quoi ça correspond?
Le mot est peut-être mal choisi. C'est pas tarif VIP, c'est plutôt catégorie or d'ailleurs. Je sais pas pourquoi j'ai mis VIP, mais on a trois catégories de tarifs. Une catégorie bronze qui est plutôt à la. Alors là, pour le coup, c'est vraiment l'inverse des spectacles ou des concerts. C'est-à-dire que la meilleure place est plutôt à l'arrière. Et on a voulu offrir une catégorie un peu moins chère, du coup, à l'avant, ce qui est la catégorie bronze. Puisqu'on a moins cette perspective, donc il faut plus bouger la tête pour voir le spectacle à 360. Ensuite, on a la catégorie argent qui est plutôt sur la partie arrière de la jauge. Et on a un rang de balcon qu'on a appelé catégorie or, puisque c'est un peu comme à l'opéra ou à l'Olympia, le premier rang qu'on est tout en haut pour avoir cette vision et être finalement dans l'immersion. Puisqu'il y en a en dessous et au-dessus, et on voit le show de manière transverse, donc c'est assez original. C'est des places que moi j'aime beaucoup, j'ai vu le spectacle sur à peu près toutes les places, et c'est assez original, c'est-à-dire qu'on vit deux expériences complètement différentes entre l'arrière et cette place-là, par exemple.
Parler de la durée du spectacle, on peut dire aussi que c'est pas un spectacle one-shot, il n'est pas destiné à juste à une saison.
Alors, ce spectacle sera joué qu'une seule saison, mais Céleste a vocation à revenir plusieurs saisons, et l'idée c'est de changer intégralement le spectacle tous les ans. Pour que les locaux puissent découvrir chaque année un nouveau spectacle, avec de nouvelles collaborations artistiques. Peut-être que les spectacles de l'année prochaine seront signés avec des artistes de renom en musique, etc. L'idée, c'est de réinventer chaque année, mais de se dire qu'on installe un rendez-vous culturel de qualité, ambitieux, dans la programmation des marchés de Noël sur plusieurs années. Parce que ce soit nous ou les collectivités partenaires, on est convaincus qu'il faut du temps pour s'installer dans le paysage, il faut du temps pour s'installer dans les réseaux touristiques. Beaucoup de tour opérateurs sont venus nous voir en disant « mais c'est génial, mais par contre moi j'ai besoin d'un an et demi de recul pour pouvoir l'intégrer dans mes circuits, dans tout ça ». Donc si on veut réussir une opération de ce genre-là, il faut l'installer sur la durée pour nous.
Que répondez-vous à cette catégorie de public qui observe tout cet engouement dont on évoquait tout à l'heure des collectivités pour ce type de spectacle, pour ces mappings, mais qui sont plus courts hein, pour le coup, et que certains disent que ça s'apparente à une Disneylandisation du patrimoine?
Moi, j'ai une approche... Je vais y répondre en deux temps. D'abord, beaucoup de palais, leur fonction première, c'était de faire la fête. Et ça, beaucoup de publics ont tendance à l'oublier. Nous, on travaille beaucoup avec le Centre des Monuments Nationaux sur mon autre activité Monumental Tour, qui ont un problème de taille, c'est qu'on a toute une génération qui est désintéressée par le patrimoine en se disant qu'ils auront toute leur retraite pour aller grosso modo visiter le patrimoine.
Et après, ils sont fatigués.
Et puis après, c'est trop complexe. Donc, on ne peut pas avoir de tels monuments dans notre patrimoine et les laisser finalement comme des musées prendre la poussière sans finalement y rajouter à nouveau de la vie. Alors évidemment que toutes les esthétiques sont discutables, il y a des éditions ou des directions artistiques qui sont parfois plus réussies, mais ça c'est évidemment les goûts et les couleurs. Mais par contre, moi j'estime extrêmement important toute initiative qui permettra de continuer à faire vivre, continuer d'animer en tout cas le patrimoine au sens large, parce que animer, faire vivre, c'est survivre, c'est continuer à stimuler. Nous, on a une initiative qui reverse 1 € par billet du coup, au temple, à son animation, à sa vie culturelle, à son entretien, etc. Toutes ces initiatives-là, elles doivent servir à ça, d'une manière ou d'une autre. Donc pour moi, je leur réponds que... alors oui, je pense qu'il y a une limite entre Disney et grosso modo des mappings sur des bâtiments. Je pense qu'il y a une frontière à ne pas dépasser, mais en tout cas, je pense que c'est important en tout cas, de faire vivre et la vie, et les villes, et les monuments en tout cas.
Ça peut se comprendre pour les gens qui sont peut-être moins sensibles à l'art numérique, au mapping, et qui préféreraient peut-être voir du spectacle vivant avec des artistes qui évoluent au cœur du patrimoine.
Il y a des offres qui existent d'ailleurs dans ce sens-là. Hein. Il y a eu des initiatives un peu partout en France, en Europe et tout, avec du spectacle vivant, d'autres avec des musiciens, d'autres sur des esthétiques moins incarnées. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts, et je pense que justement, l'avantage c'est que c'est pas installé de manière pérenne déjà, donc on n'y est pas là tous les soirs à occuper l'espace public là-dessus, donc on a fait attention à être de manière saisonnière. Et je pense que si le public préfère voir ce genre de show, il y a une offre qui existe sur le marché aujourd'hui pour aller voir ce genre de choses. Et je pense que finalement les meilleurs juges de ce sujet-là sont et les les collectivités, évidemment le public, mais aussi les gestionnaires de ces sites, que ce soit n'importe quel culte là-dessus, ils ont tous accueilli à bras ouverts ce genre de projet parce que ça fait vivre dans une époque où finalement tous ces cultes, c'est bien compliqué pour eux. Je trouve que en tout cas, eux sont très contents de voir ces initiatives faire vivre, animer finalement leur cathédrale, leurs églises, leurs temples, etc.
Je continue avec une série de questions pour la gratter, hein, désolé. On entend aussi des critiques sur le prix, comme quoi ça pourrait être excessif. Qu'est-ce que vous répondez à ça? J'imagine, en tant que producteur, il y a des coûts, il y a un modèle économique.
Oui, bah, évidemment que c'est... Alors déjà, il faut imaginer que c'est un développement qui coûte cher. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, quand on développe, par exemple, du mapping, c'est entre 5 et 6 000 euros la minute quand on est sur une surface plane. Quand vous avez 15 images qui se superposent, je vous laisse imaginer la complexité d'en faire une seule et même image. On peut entendre que c'est cher, on peut l'entendre. Nous, on a essayé de mettre en place plusieurs choses pour essayer d'abaisser ce prix. D'abord, on a fait 3 catégories de tarifs. Ensuite, on a fait en sorte que les séances en semaine soient moins chères que les séances du week-end. Et les séances en début de soirée et en fin de soirée soient moins chères que celles de 20 heures que tout le monde veut, évidemment. Notre idée là-dedans, c'était de se dire, oui, les séances demandées, elles sont à un certain tarif, mais on va essayer avec des tarifs réduits pour les moins de 25 ans, pour ceux en recherche d'emploi, etc. Il y a déjà ces tarifs réduits. Et on a la possibilité de réussir à abaisser ce tarif si on a malheureusement moins les moyens, de se dire que un lundi soir à 17h, c'est peut-être moins cher que le samedi soir à 20h ou à 18h30 parce que c'est la séance la plus haute. Donc nous, on a essayé de faire ça et on a essayé de pousser déjà l'exploitation. Il faut quand même imaginer qu'on a 268 séances du spectacle, ce qui permet de réduire justement ses coûts, mais de maximiser la durée. Et on a poussé du coup l'exploitation jusqu'au 1er février. Donc on joue de fin novembre au 1er février pour essayer de faire baisser ses coûts. Alors ça, c'est une somme, mais c'est vrai qu'au regard de l'investissement qui a été fait, de l'économie du modèle, qui est là sur plusieurs années et autres, c'est le point d'équilibre qu'on a réussi à... c'est le point le plus bas qu'on a réussi à faire en termes d'équilibre financier.
Dernière petite question qui peut déranger. Que répondez-vous à cette amorce de polémique sur le parrainage médiatique de Céleste, à savoir les médias dits de Bolloré? En plus, on connaît les appétences de Monsieur Bolloré sur la chrétienté, avec donc la présence de CNews, de JDD et d'Europe 1 qui parrainent l'événement. Je ne sais pas si vous avez été témoin ou si vous avez entendu parler de cette amorce de politique dans le milieu politique messin.
Alors, j'ai de loin, mais alors déjà, il faut citer tous les partenaires médias quand on cite les partenaires médias, puisqu'on est quand même soutenu par le groupe Ebra, on est également soutenu par Moselle TV. Et toutes les radios locales généralement nous suivent, donc déjà on peut citer l'intégralité des partenaires médias. Ensuite, en tant que producteur, d'abord, nous on réfléchit en termes d'audience. CNews aujourd'hui c'est la chaîne d'info la plus puissante de France, c'est la 5e chaîne de la TNT, enfin de l'intégralité des chaînes d'ailleurs. Donc le choix il a absolument pas été fait sur un choix d'appartenance à un milliardaire ou à un autre. Et je tenais à rappeler quand même qu'il n'y a aucune intervention, ni de près ni de loin, dans l'artistique ni dans l'éditorial du projet. Aujourd'hui, ce sont simplement des offres de mise en avant. D'abord, ce sont des partenaires médias qu'on paye, il faut le rappeler, puisqu'on investit de l'argent en achat d'espace au sein de tous ces partenaires. Et on a des conditions particulières pour avoir un peu plus d'espace médiatique chez chacun. Donc, on n'est ni coproduit par le groupe, ni cofinancé par qui que ce soit, c'est plutôt l'inverse. Et je réponds qu'il y a tout un tas de projets qui sont aujourd'hui sponsorisés, diffusés, ou en tout cas en partenariat avec certains médias de certains groupes, que ce soit chez Bolloré ou ailleurs, ou chez Bouygues ou d'autres. Et ils n'ont pas forcément un lien éditorial entre tout ça. En tout cas, chez nous, ça n'a pas du tout été le cas.
Vous comprenez que ça puisse faire polémique chez certains hommes politiques locaux?
J'ai du mal à comprendre. Pour être totalement sincère, si c'était un projet qui était en coproduction avec le groupe Bolloré, ce serait un autre sujet. Quand on est juste sur un partenaire média pour lequel on achète de l'espace, j'ai du mal à comprendre, honnêtement. C'est peut-être mal comprendre la manière dont on fonctionne avec les partenaires médias sur ce genre de spectacle. Et en tout cas, nous, on est à la disposition de n'importe qui pour expliquer la manière dont ça fonctionne et à quel point le projet est indépendant.
C'était justement le but de la question.
Bah parfait, dans ce cas on a fait les éclairages.
Juste pour rappel et pour terminer, c'est jusque donc quand, début février, c'est ça?
Jusqu'au 1er février, c'est-à-dire qu'on joue 7 jours sur 7 jusqu'au 31 décembre, jusqu'à donc 5 séances par soir, de 17h à 21h40, et à partir du mois de janvier, qui est généralement le mois un peu plus creux dans le paysage messin, on a le blues du marché de Noël, c'est un peu plus calme. On a voulu essayer de faire ce pari-là en se disant, gardons le spectacle jusqu'à fin janvier, et proposons vendredi, samedi, dimanche du coup des spectacles pour tous ceux qui n'auront pas eu l'occasion de le faire ou qui n'avaient pas eu le courage d'aller dans le marché de Noël avec ces 3 millions de visiteurs et qui pourraient avoir des sessions de rattrapage à ce moment-là.
Et comment réserve-t-on sa place ?
Alors, il y a plein de moyens de réserver sa place. Évidemment, il y a notre site, www.celeste-experience.com. Il y a tous les points de vente habituels, classiques et connus, hein, à la Fnac, au Carrefour, chez Leclerc, etc. On a un partenariat avec la Métropole, l'Office de Tourisme. Donc, vous pouvez aller acheter votre billet à l'Office de Tourisme directement, qui distribue. Et on a installé devant le Temple Neuf un petit chalet qui permet de... Si vous n'avez pas été encore au courant de ce spectacle, vous pouvez acheter une place directement pour le soir même ou pour la réserver pour le lendemain et autres, qui est ouvert chaque soir pendant l'exploitation du spectacle.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Céleste est donc visible jusqu'au 1er février prochain, tout au long de la semaine jusqu'à la fin décembre avec plusieurs projections par jour, et du vendredi au dimanche à partir du mois de janvier. C'était Christophe Prévost pour RPL, la radio du Pays Lorrain. Bonne journée et à bientôt.